attention. 1, 2, 3,
cheese!
Vous écoutez Cheese 94.3 FM à Québec.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Cheese 94.3.
T'es stagiaire postdoctoral à l'Université Laval? Ta convention collective arrive bientôt à son échéance et doit être négociée avec ton employeur, l'Université Laval. Mobilise-toi et tiens-toi informé. Pose des questions, entre en contact avec ton syndicat pour plus d'informations par courriel step@step.ulaval.ca ou par téléphone au 418-656-5990. Oublie surtout pas de suivre notre page Facebook Step Université Laval ainsi que le site web www.infostep.org. Tous ensemble vers la négo.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Cheese 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Bienvenue à table. C'est-tu trop cliché? Moi, les jeux de mots, là, j'ai pris cette mauvaise habitude de plusieurs animateurs radio que j'ai côtoyés. Tout le monde a cette fascination pour les jeux de mots. Moi, je trouve que c'est la plus basse forme d'humour sur la planète Terre.
Je suis d'accord, oui.
Mais je suis rendu que j'en fais pareil, donc endurez-moi. Vous aurez compris, si je vous dis bienvenue à table, c'est que vous écoutez les affamés de l'information, à Cheese 94.3 jusqu'à 13h. Très heureux de vous accompagner. C'est Félix-Antoine Audet que vous entendez dans votre radio, dans vos écouteurs, peu importe de quelle façon vous écoutez votre information et votre média radiophonique de l'Université Laval. Jessica Poirier-Roy, comme à tous les mercredis, qui m'accompagne, que vous entendez peut-être aussi dans l'émission Pop Analyse les jeudis après-midi. Comment vas-tu, Jessica?
Ça va super bien, toi.
Hey, c'est ça chantonnait Jessica.
Oui, c'est ça, je trouvais ça beau, j'allais dire, c'est musical. Je pense qu'il n'y a personne qui m'a appelé comme ça dans ma vie.
Très heureux de te voir et félicitations pour ton superbe travail à la soirée électorale. Tu étais au Rassemblement
Merci.
De Québec solidaire.
Oui.
Comment tu trouvais ça?
Hey, pour vrai, c'était toute une expérience. Personnellement, je suis jamais allée à un rassemblement de partis politiques et pour vrai, c'était toute une première expérience.
Surtout quand tu regardes du côté, là, c'est une chose, je suis jamais allée comme militant non plus, mais je vois comment ça se passe. Je suis allée à plusieurs soirées électorales comme journaliste et quand tu es sur le côté, t'analyses ça d'un œil,
oui.
c'est vraiment spécial.
C'est quand
différent.
Même spécial, comme tu dis, d'être sur le côté. Et de voir de voir un peu les journalistes à l'œuvre et de voir aussi les partisans qui sont là, qui regardent, qui regardaient tout autour de la télévision ensemble et ça réagissait, là. Je me croyais comme un party de famille, là, au bye-bye, et que ça réagit fort, là. C'était toute une ambiance pour eux.
Comment, mais justement, l'ambiance, parlons-en rapidement, parce qu'on a parlé de celle au party de la CAQ hier avec Megan Asselin. Comment as-tu trouvé celle de Québec solidaire? Parce que c'est un peu ambivalent la position de Québec solidaire après ces élections-là, dans une situation où techniquement ils ont fait des gains, techniquement on peut être heureux, mais on s'attendait peut-être à plus. Est-ce que t'as senti ça dans le rassemblement ou t'as senti seulement du plaisir malgré le fait que c'est... Moi, j'ai considéré comme les grands perdants des élections. Là. Québec solidaire, je considère que c'est le grand perdant. En considérant le système électoral qu'on a en ce moment, là, parce que sinon, ce seraient les conservateurs. Mais j'ai de la difficulté à croire qu'on peut être réellement heureux dans le QG général, là, avec les grandes têtes de Québec solidaire.
C'est intéressant que tu dises ça, l'as-tu parce vu? Au contraire, l'optimisme régnait. Tout le long de la soirée, quand les résultats ont commencé à sortir, quand on a su notamment que la CAQ rentrait
majoritaire,
exactement, ça n'a rien changé.
Ben on le savait, on l'attendait là.
Exactement, et justement j'étais avec d'autres collègues, on est allé faire des vox pop dans la foule pour savoir comment vous vous sentez, est-ce que vous restez optimiste, et les gens ce qui revenait c'était, on le savait, c'est pas une surprise.
Ouais.
La soirée est encore jeune. C'est ça qu'on se faisait dire. Et jusqu'à la fin, c'était ça. Pour vrai, à chaque circonscription qui rentrait, on pouvait entendre les cris de joie qui se faisaient entendre au deuxième étage du Concorde. C'était fou.
Ah, c'est sûr qu'il devait avoir une ambiance facile. Surtout que Québec a réussi. Bon, Étienne Grandmont, c'était pas une grande surprise. On savait qu'il allait passer dans Taschereau à moins d'une catastrophe là, face à Jeanne Robin. Mais pour Sol Zanetti, c'était loin d'être acquis.
Oui.
On a été chercher la victoire de ce côté-là. C'est sûr que ça a dû être un bon moment pour le rassemblement. Je pense que peut-être celui de Montréal a eu quelques difficultés. Mais encore là, il y a eu des gains à Montréal. Mais c'est un peu... Je reviendrai pas, je répéterai pas ce que j'ai dit hier. Là. Je vais le rappeler vite parce que vous avez peut-être pas nécessairement été à l'écoute hier. Mais pour Québec solidaire, c'est que tu rentres encore plus dans ton stéréotype que t'es un parti des grandes villes.
Ouais.
T'as perdu Rouyn-Noranda, t'as fait des gains à Montréal, t'es resté dans le centre-ville de Québec. Sherbrooke, au moins, on l'a sauvé. Je pense que c'était très important, mais ça reste quand même dans un secteur très universitaire d'une grande ville. C'est pas exactement ça qui va enlever le stéréotype. La perte de Rouyn, moi, je trouve ça énorme là, pour Québec solidaire. C'est très, très dur. Et même dans les circonscriptions où il y avait vraiment des... C'était serré, là. Il y en a pas beaucoup qui ont été emportés par Québec solidaire.
Non,
on les voyait, là. Ça a été des circonscriptions où on le voyait venir, l'avance.
Oui. On voyait beaucoup la CAQ.
J'ai l'impression qu'il risque d'y avoir des déceptions. Et parlant de déceptions, ben, je vous l'ai dit, là. C'est dans le système actuel... C'est Québec solidaire le grand perdant, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, mais dans la réalité, c'est sans aucun doute les conservateurs.
Oh oui.
Le mode de scrutin continue à faire parler. Là. Je me demandais si ça allait s'éteindre après une journée. On continue encore à parler. C'est le thème de la chronique de Richard Martineau ce matin. Qu'on l'aime ou qu'on l'adore, c'est généralement un bon baromètre... De ce qui fait jaser au Québec. Présentement, là, Richard Martineau a bien des défauts, mais une de ses qualités, c'est d'être capable de mettre le doigt sur ce qui fait parler.
Mm-hmm.
Et est-ce qu'il est du côté que vous êtes d'accord ou non? Ça se peut que non, mais il sait ce qui fait jaser. Et en ce moment, il parle de ça. Il dit 34% des gens n'ont pas voté aux élections actuelles, ce qui est un peu bas, mais reste dans la norme des dernières années au Québec. Dis-moi, je suis pas mal convaincu qu'on va avoir beaucoup plus bas aux prochaines élections parce que là, soudainement, t'as vraiment l'impression que ton vote ne compte plus.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui pourrait faire très mal à notre démocratie. La démocratie, elle est pas vivante ou morte. Hein? Il y a toujours un entre-deux. Et pour l'instant, elle va bien, mais c'est le genre de choses qui pourrait donner un solide coup. Je veux dire, comme a dit Richard Martineau, peut-être que c'était vrai quand François Legault le disait, que ça n'intéressait que certains intellectuels passionnés de politique. Il dit, je pense pas que ça l'est aujourd'hui.
Non.
C'est je pense que réellement, il y a quelque chose qui dérange. Et là où j'ai de la difficulté à croire que ça va changer, c'est qu'il y a trois partis que ça dérange. Présentement, il y en a deux que ça avantage. Le Parti libéral, la Coalition Avenir Québec, clairement, sont bien heureux. Là. Dépendamment de la vision puis du système, la CAQ aurait été à 75, à 67, dépendamment de ce que vous avez vu comme analyse.
Mais resterait majoritaire.
Resterait majoritaire, mais reste que c'est... Faut que tu dises à l'autre tiers de ton caucus, « Ouais, excusez, on va vous enlever, on va vous enlever votre job que
c'est
vous venez d'avoir. » Et c'est une réalité, là. Si vous pensez qu'il n'y a pas de député qui pense à ça, là, sur une pension à vie, pour deux mandats, il y a beaucoup de députés qui la veulent, cette pension à vie-là. Là. C'est attirant, certainement. Je dis pas que ne soyons pas cyniques. Là. Les gens font pas ça pour ça uniquement. Il faut beaucoup de courage pour se lancer en politique, peu importe le parti. Mais reste que c'est une réalité de la vie politique. Et il y a trois partis qui demandent ardemment à ce qu'on change le mode de scrutin, le Parti québécois, le Parti conservateur et Québec solidaire. Sauf que Éric Duhaime l'a bien exprimé, ça va prendre un mouvement citoyen pour forcer la main à la Coalition Avenir Québec, ça va prendre des manifestations, ça va prendre etc., etc., etc. Ce que je vois beaucoup, de même personnes qui dénoncent le système, le mode de scrutin, par exemple chez les partisans de Québec solidaire, on est donc heureux que personne au Parti conservateur ait été élu. Qu'on est heureux. Puis ça va de la même place de l'autre côté, là, au Parti conservateur. Oh, on est donc heureux que Québec solidaire soit pas l'opposition officielle.
C'est sûr.
Le jour où Éric Duhaime, par exemple, parce que là, lui en a déjà parlé, c'est lui que ça affecte le plus. Il n'y a pas de place à l'Assemblée nationale, il n'est pas à la tribune de presse, il n'y a pas de bureau, ce qu'il est en train de demander d'ailleurs. Si Éric Duhaime organise une manifestation pour le mode de scrutin, ce qui touche pas juste le Parti conservateur du Québec.
Exactement.
Est-ce que les partisans de Québec solidaire vont vouloir se rendre à cette manifestation-là? Et à l'inverse, je pense que le Parti québécois, on va lui donner ça parce que Paul Saint-Pierre Plamondon était un de ceux qui disait « je veux voir Éric Duhaime être élu mm-hmm. ». De la même manière qu'Éric Duhaime disait que Paul Saint-Pierre Plamondon, on voulait le voir élu pour représenter son parti. Je pense mm-hmm. que des partisans du Parti québécois se rendraient quand même, peu importe qui organise la manifestation.
Mm-hmm.
Mais de la même manière, Parti conservateur, ils vont mal dire « ah, Gabriel Nadeau-Dubois organise une manifestation, on va y aller ».
Oui, c'est ça.
J'ai de la difficulté à le voir venir. Mm-hmm. J'ai de la difficulté à le voir venir. Il y a 45% à peu près du Québec qui, de près ou de loin, doit se sentir touché par une réforme du mode de scrutin.
Mm-hmm. Oui, parce que justement, selon un article de Radio-Canada, ça aurait quand même un grand impact. Si on prend, par exemple, le Parti libéral, ils auraient obtenu 5 sièges de moins. Donc, 16 plutôt que 21. Du côté Québec solidaire, ça serait 14 députés au lieu de 11.
C'est selon quel modèle, ça?
Selon... sais-tu... Je connais pas le nom.
C'est sur quel site t'as trouvé ça?
Radio-Canada.
Ah, peut-être Rad, oui. Parce que j'ai vu certaines... Normalement, dans certaines... Ça dépend, là, évidemment, parce qu'il y a mille et un systèmes. Il y a le système à deux votes là, qu'on parle avec la banque régionale.
À deux votes, c'est ça. Bon, mais bon. À deux votes, le Parti conservateur aurait eu 10 élus.
Oui, exactement. Et puis aussi, les questions simplement purement proportionnellement, le Québec solidaire serait l'opposition officielle, mm-hmm. Le Parti conservateur qui aurait à peu près 14 députés, le Parti québécois aussi. Mm-hmm. Il y a mille et une façons de le calculer, là, mais reste que présentement, ça fait pas de sens.
Non,
c'est la chose que beaucoup de Québécois peuvent s'entendre. Mm-hmm. La question, c'est est-ce que beaucoup de Québécois sont prêts à s'entendre en même temps pour aller manifester, démontrer leur mécontentement. Là. Il y a 90 circonscriptions au Québec là, qui ont des députés caquistes. C'est pas mal important de leur écrire. Mm-hmm. C'est pas vrai que l'unanimité dans le caucus caquiste, merci, je cherchais le mot, excusez-moi.
Caucus caquiste.
Oui, exactement, c'est un beau virlangue.
Vraiment beau virlangue.
C'est pas vrai qu'il y a unanimité. Joëlle Boutin a été sur nos ondes et en a parlé elle-même que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il faudrait en parler. Je pense que ça vaut la peine d'écrire même à un député caquiste que c'est quelque chose qui dérange. C'est rare que vous allez m'entendre prendre des prises d'opinion, mais quand il s'agit de la démocratie, mm-hmm. je pense que c'est important, peu importe mm-hmm. pour qui on prend, de croire qu'il y a un problème mm-hmm. présentement
que
avec
les intentions de vote suivent pas ceux qui sont rentrés à l'opposition.
Exactement. Donc, ça ne me semble pas logique, ça ne me semble pas raisonnable. Moi, je suis un peu moins dans le système là, avec les élus, la banque d'élus régionaux. J'aime beaucoup le système préférentiel, mais on est dans des technicalités. Je pense juste que l'important, c'est qu'il y ait une réforme.
Mm-hmm.
Je pense que c'est la base de cette intervention. On retourne dans un beau scandale, celui d'Hockey Canada, Hockey Québec. Hockey Québec n'est pas un scandale, on va préciser. Donnez-moi 5 secondes. Bon. Hockey Canada, on a appris plus tôt cette semaine qu'il y a un autre fonds pour défendre des agresseurs sexuels, parce qu'il y en a tellement qu'il faut avoir de l'argent de côté pour ça. C'est ce qu'on semble comprendre du côté d'Hockey Canada. Mm-hmm. Il y avait un deuxième, on avait déjà appris il y a un moment l'existence du premier, ce qui avait amené à des audiences devant le Parlement canadien, mm-hmm. devant des députés fédéraux, où on a demandé de révéler tout ce qu'on avait besoin de révéler. Évidemment, on a caché l'existence de ce deuxième fonds même durant les audiences. Et là, maintenant, on est supposé continuer à croire que c'est les bonnes personnes pour faire le changement de culture mm-hmm. d'Hockey Canada.
Qui est un changement qui se fait en ce moment.
Parce qu'eux ne veulent pas démissionner, évidemment. Là, ça a été mis au clair. C'est sans compter le sondage Internet où on demandait dans les questions « Jugez-vous que les médias ont été trop difficiles avec Hockey Canada dans les questions? » On voit qu'il n'y a aucun regret, il n'y a aucun remords, il n'y a aucune prise de conscience du côté d'Hockey Canada. Et maintenant, on apprend l'existence de ce deuxième fonds.
Mm-hmm.
Alors, comment les choses peuvent bouger? Eh bien, Hockey Québec, on peut les applaudir à grandes mains, très chaleureusement, parce qu'un des premiers dominos est tombé. On le sait, là, quand on parle de ces fonds-là, ils sont pris à la base des inscriptions notamment.
Mm-hmm.
C'est-à-dire petit Thomas, 5 ans, qui joue Timbit au hockey mm-hmm. présentement. Je pense qu'il appelle plus ça Timbit, je suis pas sûr.
Non, je pense
pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Ben lui, le petit montant qu'il paye, mais c'est pour aider les victimes, ceux qui commettent un viol collectif à un gala d'Hockey Canada.
Une partie va à eux.
Oui, c'est exactement ça que ça devrait servir. Alors, Hockey Québec a dit, ben c'est terminé. Les frais d'inscription d'Hockey Québec n'iront plus à Hockey Canada. On se désiste. Il y a eu un vote où on renie la confiance qu'on avait en Hockey Canada. Ça a été applaudi au gouvernement fédéral, notamment par la ministre des Sports, Pascal Saint-Onge, qui a dit qu'elle espère que d'autres fédérations provinciales allaient suivre le pas. Évidemment, c'est plus symbolique qu'autre chose.
Oui.
Notons-le, là, les frais d'inscription, c'est 2% seulement des revenus d'Hockey Canada. Reste que ce 2%-là, c'est un 2% pareil, considérant qu'ils ont perdu beaucoup de commanditaires, que le tournoi des championnats juniors, qui d'habitude leur amène d'énormes sommes, s'est joué devant presque personne, avec presque aucune publicité. Je pense qu'il y a un message qui va commencer à être envoyé, puis ça va commencer à chauffer un petit peu sur les bancs conseil d'administration de Hockey Canada. Mm-hmm. Est-ce que ça va mener à des démissions? C'est tout frais. C'est tout nouveau, on verra.
Sait pas. Mais un bon point que Hockey Québec a apporté, c'est qu'avec l'organigramme présentement en vigueur pour Hockey Canada, les changements de culture, c'est pas réellement possible. Et en fait, j'ai vu un documentaire, je crois que c'était à Radio-Canada aussi, justement, qui parlait, où qu'on voyait des victimes, on voyait des gens de l'organigramme dans le temps de Hockey Canada, et des anciens joueurs aussi de hockey qui faisait partie de Hockey Canada. Et ce qui revenait souvent, c'est qu'il y a une culture... La culture au sein des joueurs est déjà problématique. Et les joueurs, souvent, c'est eux qui montent plus haut dans l'organigramme. Donc, il y a un cycle de la culture qui se poursuit.
Regardez, là on veut pas aller dans les généralisations. Okay? Des joueurs de hockey, au Québec, c'est pas compliqué. Là, tout le monde en connaît parce que il y en a beaucoup. Tout le monde a joué au hockey d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, s'intéresse de près ou de loin, ne serait-ce que par le biais de sa famille ou même si une personne a un désintérêt total. Mm-hmm. Je pense que ça marque le tissu social de notre province. On l'a vu avec les funérailles de Guy Lafleur. Vous avez donc, parce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui joue au hockey, que ce soit par lui-même ou par des gens qu'il côtoie ou par des histoires que vous entendez de gens qu'il voit dans cette chambre de hockey-là, vous savez qu'il y a un problème de culture. Mm-hmm. Surtout au niveau du traitement des femmes, là. Je pense que c'est se voiler la face de croire. Puis je vise personne, évidemment, si vous êtes un joueur de hockey puis vous avez probablement majoritairement rien fait, toujours été correct, mais vous l'avez entendu, vous l'avez vu, vous le savez. Okay? J'ai vu mon frère à l'âge d'être au secondaire jouer dans l'équipe de hockey du secondaire. C'est pas compliqué, tout est permis, ils peuvent tout faire. Ils pensent que toutes les filles leur appartiennent. Il y a un problème de culture au hockey. Purement et simplement.
Oui.
Et je pense que dans la même lignée, ben là, Logan Mailloux, on a vu toute cette histoire autour du Canadien. On va enchaîner parce que c'est un peu dans la même lignée. On a profité aujourd'hui du fait que la nouvelle de Hockey Canada, Hockey Québec est sortie pour annoncer en catimini, en espérant que ça passe en dessous. Parce que ça, détrompez-vous pas. Les gens qui s'occupent des relations de presse sont brillants. Ils savent profiter d'éclipses médiatiques, comme on les appelle. C'est à ces moments-là que c'est pertinent d'annoncer des mauvaises nouvelles, quand tu sais que ce ne sera pas la pire nouvelle de la journée. Et c'est ce qu'on a fait du côté du Canadien. On a annoncé la signature du contrat de Logan Mailloux, sans grande annonce, rapidement déposée, en pensant que ça ne ferait pas trop jaser. Ils ont raison, là. C'est le gros dossier qui va faire jaser un scandale, c'est pas mal plus celui d'Hockey Canada et la décision d'Hockey Québec. Reste que là, Logan Mailloux a été signé.
Pour 3 ans en plus.
Oui, mais ça, c'est obligatoire. Le contrat d'entrée, c'est 3 ans. Tu peux pas faire autrement. Ils ont donné le salaire minimum permis par la Ligue nationale de hockey. OK, c'est beau. Il y a quand même un bonnet à signature de 90 000 $. Lui, ce matin, il s'est réveillé puis il y a 90 000 $, l'équivalent de 2 ans de salaire pour la personne moyenne au Québec qui est rentrée dans son compte en banque.
Quand même.
Et je vais être honnête quand même, parce qu'il n'y a rien de noir ou il n'y a rien de blanc dans la vie, je vais toujours vous le répéter. C'est un peu le cas avec la situation Logan Mailloux. Ça reste que c'est un mineur, ça reste qu'on a un système de justice, ça reste que tout ne mérite pas de ne plus pouvoir travailler, de ne plus pouvoir... Sauf que c'est quand même dans un monde où la culture du hockey est problématique déjà. Et même si Logan Mailloux, de ce que j'en comprends, là, de gens que je connais personnellement, qui l'ont vu, qui lui ont parlé, il y a réellement un changement qui s'est fait dans la tête de ce jeune homme-là. Je pense que je peux y croire pour vrai. Sauf que ce que ça envoie comme message aux jeunes là, qui se croient déjà en ce moment un peu tout permis, parce qu'ils vivent dans un monde où on leur permet un peu tout, c'est pas tant de leur faute. Tu leur donnes la permission de tout faire. T'es dans une situation où t'as l'impression que tout le monde trippe sur toi, que t'es la grande vedette de ta ville, de ton comté, de ton école secondaire. Mais là, le message que tu vois, toi, c'est pas « Ah, il s'est réformé, donc c'est là, c'est pour ça que c'est correct. » C'est pas ça que lui, il voit. Non. Lui, ce qu'il voit, c'est pas grave si je traite une fille comme de la merde. Je peux quand même me réveiller demain matin 90 000 piastres plus riche.
C'est pas important, c'est pas grave.
Puis c'est là où je suis un peu ambivalent, parce que il y a quelque chose qui s'est fait dans la tête de ce gars-là. Pour vrai, j'y crois pour vrai. Je crois pour vrai que ce gars-là a le droit, parce que sais-tu quoi, c'est ça le principe du système de justice, on croit à la réforme des gens.
Oui.
On veut des peines nécessairement qui sont moins concentrées sur la répression et plus sur la réforme. Donc faut croire que ces gens-là peuvent revenir dans la société. C'est dur de le faire en pratique, en théorie on est tous d'accord, puis quand arrive au moment où faut dire ah ben oui, ben t'as payé ta dette à la société, viens-t'en, là on a plus de difficultés parce que c'est pratique. Mais reste que ça envoie tout un message quand on a tous ces scandales d'Hockey Canada qu'on voit, quand on apprend que c'est une personne qui soudainement se ramasse à être un peu riche, contrairement à la personne moyenne, après avoir fait ça. C'est difficile.
Et après ça, on essaye de dire que la culture a changé. C'est ça, ça l'envoie un peu, mais un message, on dirait un petit peu contradictoire des fois.
Très contradictoire. On le dit sur papier, mais quand vient le temps de mettre tout ça en pratique, c'est là qu'on ne sent pas les changements. On avance tellement, je briserai pas notre rythme. Là, on prendra une pause musicale un peu plus tard dans l'émission. Je veux parler d'Éric Duhaime, qui, évidemment, n'a pas l'intention d'arrêter de faire parler de lui, là, parce que c'est tout un défi, essayer de continuer à être pertinent et présent dans le débat politique sans avoir de point de presse à l'Assemblée nationale, ce qui est son cas présentement. Parce que lui et Paul Saint-Pierre Plamondon, dans les dernières années, pouvaient parler en point de presse aux journalistes de l'Assemblée nationale parce qu'il y avait des députés. Claire Samson pour le Parti conservateur et bon, le Parti québécois qui avait quelques députés. Donc même si c'était des chefs non élus, pas grave, on a une présence, on est capable, on a un budget de recherche, de communication qui nous permet de présenter notre message aux Québécois, de critiquer le gouvernement. Éric Duhaime qui ne l'a pas présentement, et il a annoncé très clairement qu'il était à la recherche de sa prochaine Claire Samson. Et sais-tu quoi? Il y a des bonnes chances qu'il réussisse à la trouver. Parce qu'un des grands défis de la coalition Avenir Québec présentement, on a 90 députés. Beaucoup de députés vedettes qui ont été élus. T'as un conseil des ministres à former, là. Et il y a beaucoup de gens qui se sont présentés en se disant « Moi, je suis ici pour être ministre. » Des ministres dans la région de Québec, il y en a énormément. Et tu viens de faire élire Bernard Drainville, Martine Biron. Là, il commence à manquer un peu de place, tout le monde. Des Jonathan Julien, des Éric Kerr doivent sentir la chaise chauffée. Jean Boulay, qui était ministre de l'immigration, on le sait qu'il ne le sera pas, mais est-ce qu'il va être encore ministre quand même? C'est tout un dossier. Il y a des gens qui doivent commencer à s'inquiéter tranquillement, pas vite, et qui vont être malheureux, qui ne veulent pas être un député d'arrière-ban.
Finalement, il y a des avantages à avoir beaucoup, à être majoritaire.
Il y en a quelques-uns, et ça, c'en est un. On va avoir évidemment les décisions de François Legault. Ça va être dans 2 semaines environ, là, dans le coin du 16 octobre, pour savoir qui composera son conseil des ministres. Et Éric Duhaime va aller voir les mécontents. Il risque d'aller voir des Jonathan Julien, des Éric Kerr, des Jean Boulay, des gens qui... Là, évidemment, peut-être que ces gens-là seront ministres, là. Mais j'y vais dans des noms qui feraient du sens. Parce que c'est pas Geneviève Guilbeault qui sera plus ministre, là. C'est pas... Bernard Drainville va être ministre. Je peux vous le garantir, là. Il y a des noms qui ne bougeront pas, certainement. Pierre Fitzgibbon, Christian Dubé. Les grandes têtes ne bougeront pas. Sonia Lebel, Simon Jolin Barrette, là, je vais arrêter de défiler. Non. Mais voyez, juste rapidement, off the top of my head, si vous me permettez l'expression, je peux vous nommer 5, 6, 7 députés qui sont garantis d'être ministres. C'est pas mal déjà la moitié. Tu peux vouloir augmenter le nombre de ministres, mais il y a une maudite limite là, à augmenter le nombre ministres. Va falloir prendre des décisions, il y a des gens qui vont être mécontents. Et Éric Duhaime va aller fouiller chez ces gens-là à voir s'il sera capable d'aller chercher une autre Claire Samson. Idéalement, peut-être quelqu'un... Je veux pas rien dire parce qu'encore une fois, j'ai toujours beaucoup de respect pour quiconque se présente à l'Assemblée nationale, mais qui représenterait peut-être un peu mieux son parti, ouais, que Claire Sanson ses cigarettes pendant les lives Facebook. Mm-hmm. Encore une fois, être un peu moins parodiable, ce serait bien, ouais, pour le Parti conservateur du Québec, très certainement. Donc, Éric Duhaime qui l'a affirmé très publiquement. J'ai bien hâte de voir comment ça se passera. Ce ne sera pas dans un avenir rapproché.
Non,
là,
c'est ça. Mais ça là, il y a le choix, là. T'en as nommé plein.
Ouais.
On the top of your head.
Fait que, on verra comment ça va se passer, évidemment, là, du côté de la formation du Conseil des ministres. Et parlant justement là, de cette formation du Conseil des ministres, on sait certaines choses. Par la faute de Geneviève Guilbeault, qui s'est prononcée sur son avenir politique. Il y a deux choses qu'elle a mentionnées. Une qui n'est pas très surprenante, une qui l'est un peu plus. Elle a mentionné qu'elle ne voulait plus être ministre de la capitale nationale, donc responsable de Québec, ce qui n'est pas très surprenant.
Non.
Quand tu regardes sa relation avec Bruno Marchand dans les dernières années, ça a été difficile. Mmh. C'était difficile avec Régis Labeaume aussi. Beaucoup d'obstination sur le troisième lien, sur le tramway.
C'est deux gros dossiers aussi.
On avait l'impression que Geneviève Guilbeault défendait les intérêts de la CAQ à Québec et pas les intérêts de Québec à la CAQ.
Oui, c'est ça.
Et c'est ce qui frustrait beaucoup le maire Bruno Marchand. Claude Villeneuve, notamment le chef de l'opposition, qui avait dit que Geneviève Guilbeault était la pire ministre responsable de la région qui avait jamais existé. Là. Est-ce que c'est vrai? C'est peut-être un brin intensif, mais vous comprenez le point. Clairement qu'il y avait besoin d'un changement à ce niveau-là. L'autre chose qui surprend peut-être un peu plus, c'est son désir de quitter le ministère de la Sécurité publique.
Oui.
Là, ça, je l'avais peut-être un peu moins venir. Elle dit qu'elle a fait le tour de ce secteur. Et ça se voit régulièrement, là, un ministre qui aime bien toucher à autre chose.
C'est
mais
sûr.
Elle avait eu un impact quand même important. Attachez-moi un peu, là, mais positif, ne serait-ce que pour l'histoire des bracelets.
Ouais.
Des bracelets avec à géolocalisation pour des personnes à risque de commettre de la violence conjugale. Mm-hmm. Ne serait-ce que pour ça, on sentait que c'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Est-ce que c'est dit, ben, j'ai fait ça, fait que c'est terminé, c'est correct, je peux passer à autre chose, peut-être.
Ouais.
On aurait eu l'impression qu'elle avait peut-être autre chose à accomplir quand même.
Mm-hmm.
Donc, on va avoir un nouveau ministre de la Capitale-Nationale, très clairement.
Ouais.
Et il y a des rumeurs qui circulent allègrement, comme quoi ça pourrait être un ministre responsable et de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Parce qu'on n'arrête pas là, du côté de la Coalition Avenir Québec, dire que le développement doit se faire les deux ensemble. C'est pas individuel l'un à l'autre, là, un peu comme on présente le projet de Troisième Lien, le réseau express de la Capitale, tout le tralala. On veut une vision de développement qui rejoint les deux régions chez la Coalition Avenir Québec, qui se fait ensemble. Ça expliquerait un peu, là, après ça, la possibilité de nommer un ministre responsable de la capitale nationale en dehors de Québec. Parce que tu regardes qui reste là, dans les ministres à Québec, de mémoire, Éric Kerr est dans la région de Québec, ou Jonathan Julien, un des deux. Joël Boutin, je pense pas qu'on la mettrait ministre à ce poste-là. Geneviève Guilbeault vient de se désister. Il y a le nom de Bernard Drainville qui revient régulièrement, qu'on entend souvent mentionner. Il faudrait le surveiller parce que j'ai l'impression que c'est le poste qui pourrait le revenir. Évidemment, là, on est purement dans la spéculation, vous comprendrez. Mais Bernard Drainville, ministre responsable de la grande région de Québec, lui qui habite à Québec, mais qui est ministre, qui est député sur la Rive-Sud. Donc, il y aurait peut-être quelque chose de possible à faire là. Et Bernard Drainville qui pourrait recevoir cet honneur. Lui aussi qui a confirmé qu'il s'attendait à être ministre. Là. Évidemment, je serais surpris de voir qu'il ne le serait pas. Surtout qu'on le considère de plus en plus dans la course pour la chefferie de la Coalition Avenir Québec. Alors que François Legault, certains pensent que c'est peut-être son dernier mandat à la tête du parti qu'il a fondé. Donc, ça va être à suivre. Je dis beaucoup donc, excusez-moi aujourd'hui. On va suivre ça de près, là, évidemment, le dossier du ministre de Québec, mais comme vous le savez, on ne saura pas avant deux semaines encore. Donc, Geneviève Guilbeault, qui ne sera pas du ministère de la Sécurité publique ou responsable de la capitale nationale. On va prendre une première pause publicitaire sur les ondes de Chiz 94.3. Et après la pause publicitaire, ben, c'est Sarah May avec Fuego qui vous accompagne.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Moi, c'est Robert. J'aime vraiment Linux puis des kiwis des nerds.
Eh oui, Robert, pour citer un grand homme,
L'émission la plus fruitée de la Norderie vous annonce son grand retour. Soyez des nôtres le dimanche midi pour la contre-attaque des Kiwis. Sur les ondes de Chiz 94.3.
Capté par son receveur! Touché! Rouge et or!
Le Rouge et or est à Sherbrooke ce vendredi 7 octobre pour y affronter le Vert et or. Le match vous est présenté en direct de Chiz 94.3, la radio officielle du Rouge et or. La troupe de Glenn Constantin vous raconte plus sur sa lancée victorieuse et remporter la série de deux matchs face au Vert et or. Ne manquez pas l'avant-match dès 18h30 en direct du stade de l'Université de Sherbrooke en compagnie de François Dumas et Victor Marchand. Rouge et or, Vert et or, ce vendredi 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
affamé sur les ondes de Chiz 94.3.
Midi 34, bien précisément, Félix-Antoine Audet qui vous accompagne en compagnie de Jessica Poirier-Roy pour
toujours
encore une trentaine de minutes. Ben oui, tu disparais pas, t'es prise avec moi à une heure chaque mercredi, à ton grand malheur.
On se tape sur les nerfs, mais je suis encore là. Je suis prise dans le studio.
Et voilà, j'ai barré les portes, sinon c'est en train de s'échapper. Et je suis très heureux de recevoir notre prochain invité, c'est André Raymond, directeur du service de développement professionnel à l'Université Laval. Bonjour, Monsieur Raymond.
Bonjour.
Très heureux de vous recevoir et je suis surpris que vous ayez trouvé le temps de venir nous parler pour quelques minutes parce que c'est un peu la folie furieuse tout juste en haut dans le Alphonse Desjardins. C'est la foire de l'emploi qui a commencé aujourd'hui.
Ouais, c'est le carrefour de l'emploi, puis on est tellement contents. On est tellement contents d'avoir des employeurs en présentiel après 2 ans d'activité en ligne puis des rencontres en ligne. C'était beaucoup une demande des employeurs. On veut voir les étudiants, les étudiantes. On aime ça les rencontrer. Puis c'était beaucoup aussi des commentaires la population étudiante, on veut rencontrer les employeurs. Donc, enfin, c'était une occasion. Et tout le monde répond à l'appel. On a 180 entreprises qui sont présentes ici aujourd'hui au pavillon Desjardins. Il y a juste des salles de bain qui n'ont pas des employeurs.
Oui, ça déborde.
C'est vrai.
Il y en a en avant du foyer, il y en a dans l'atrium, il y en a dans la salle Hydro-Québec, il y en a aussi en haut, là, au grand salon. Donc, on en a mis partout. On a pacté à la place le plus qu'on pouvait. Puis ceux qui ne pouvaient pas venir en présentiel, ben ils vont être là en virtuel. Parce qu'on a 50 employeurs là, qui n'ont pas pu venir en présentiel parce qu'on avait juste plus de place.
Donc, on fait ce qu'on peut, mais les toilettes, on va les laisser aux étudiants.
C'est un bon
donc, ils vont être à distance. Donc, même les employeurs qui sont en présentiel aussi, ça va être possible de continuer de visiter leur kiosque de façon virtuelle jusqu'à vendredi. Mais on vous incite fortement à venir aujourd'hui. C'est le temps. Il va y avoir des employeurs jusqu'à 3 heures. On a plein d'activités. Vous pouvez venir chez Zone, compléter, qui est un de nos partenaires, compléter un petit coupon, pas d'achat requis. Vous pouvez gagner un ordinateur. On a Salvatore qui donne des pizzas.
C'est utile.
Là, vous parlez activité. Aux étudiants de la pizza, un ordinateur, les employeurs.
Puis, cette année, là, c'est une grande année. Ben, on développe le Carrefour depuis plusieurs années avec l'AISEC, qui est une association étudiante internationale. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on a aussi un partenariat avec la CADEL et l'Allier, donc qui se sont joints à nous pour faire connaître l'événement, être là. Donc, on a mis vraiment toute la gomme là, pour qu'il y ait du monde. Puis honnêtement, à date, on est content.
Oui.
Parce qu'on a du monde. Là. Il y a du monde sur le campus. Il y a du monde partout. Ah, c'est le fun.
Vous l'avez dit, il y a 180 employeurs. Est-ce que cet événement-là s'adresse un peu plus à des gens sur le point de finir? Est-ce qu'on s'adresse à des gens qui rentrent pour voir un peu les qualificatifs qu'on cherche? Est-ce qu'il y a une diversité? C'est un mélange de tout?
C'est vraiment...
Pourquoi y aller? Qu'est-ce qu'on a à faire?
C'est un mélange de tout. D'abord, on a vraiment facilité ça parce qu'avec l'application qu'on a mis en place, tu peux sélectionner tes employeurs par domaine d'activité, par secteur. Donc, c'est facilitant. D'abord, si tu es en première année, viens rencontrer des employeurs parce que c'est déjà peut-être le temps de trouver des stages. Il y a des employeurs de plus en plus, on le sait qu'il y a une rareté de main-d'œuvre dans la région de Québec qui est encore plus grande qu'ailleurs au Québec. Et les employeurs, ils ont faim. Donc, quand ils voient des étudiants qui sont intéressants, intéressés, c'est pas rare là, qu'il peut y avoir des opportunités. Soit tu travailles à temps partiel maintenant, même si c'est pas déjà dans ton domaine, au moins, ça te fait connaître un employeur. Possibilité d'avoir des stages à l'été, les meilleurs stages, ils partent quand même de plus en plus rapidement, surtout si tu es en TI, en génie. Les bons stages, ils partent rapidement.
Justement, là, vous mentionnez TI, génie. Est-ce que j'imagine que si vous les mentionnez, c'est qu'ils en font partie, mais les domaines qui sont le mieux représentés, là, que si vous êtes dans ce domaine-là, vous nous écoutez, prenez votre CV puis envoyez grouiller au Desjardins.
Le Carrefour, c'est la place parce que les employeurs recrutent dans tous les domaines parce qu'on a beaucoup de journées carrière thématiques dans l'année. On a des journées en santé, en éducation, en agriculture avec les associations étudiantes. On développe des journées carrière thématiques. Mais le Carrefour, là, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Puis c'est des employeurs qui recrutent dans tous les domaines. Tantôt, là, j'avais une étudiante des arts, faculté des lettres. Puis écoute, on avait, je pense, une vingtaine d'employeurs à y suggérer. Fait que c'est quand même intéressant. Donc oui, première année, évidemment, les gens qui vont... deuxième année aussi pour un stage, si tu termines aussi ou si tu es à la maîtrise, c'est intéressant pour identifier des employeurs pour aller travailler. Les étudiants au doctorat aussi, c'est une belle façon de démystifier ce qu'on fait au doctorat, de se faire connaître aussi. Les diplômés qui de l'Université Laval qui veulent changer d'emploi, c'est le temps. On veut que les employeurs voient le plus de monde possible parce qu'on veut qu'ils reviennent nous voir sur le campus. Puis plus qu'ils vont rencontrer des étudiants, des diplômés puis des gens intéressants pour eux, bien plus qu'ils vont vouloir venir sur le campus.
Là, disons les choses comme elles sont. Il y a des étudiants qui, très probablement, le savaient pas que ça avait lieu aujourd'hui, qui sont en jogging, venus pour une journée normale, ils ont pas leur CV prêt, ils ont pas leur lettre de motivation. Ça vaut-tu la peine de se rendre pareil? Y a-tu des inquiétudes à avoir? Comment...
Ah, c'est sûr. Écoute, viens pareil. le CV, c'est un papier qui peut être donné après. Hein? Donc, dans le fond, les employeurs sont pas là pour lire des papiers, des CV. Tu pourras toujours le faire suivre après. Les employeurs, ils viennent sur le campus parce qu'ils veulent vous voir, ils veulent discuter avec vous. Évidemment, mets-toi correctement. Là, enlève ton jogging, puis mets-toi un t-shirt propre, un pantalon propre, ça va être bien correct. C'est des étudiants, les employeurs, ils s'attendent pas que tu arrives ici en veston-cravate. Puis aussi, ce qu'on dit aux étudiants, c'est n'ayez pas peur d'aller poser des questions au kiosque. J'étais avec un étudiant en foresterie tantôt, puis là, il regardait sur son application, voir, il voulait aller voir Kroger, puis je sais pas s'il recrute dans mon domaine. Je dis, écoute, ils sont là, là. Fait que j'ai pris l'étudiant, je l'ai mis devant Kroger.
Mande-lui!
Le pavillon était tellement content d'y parler. Fait que, écoute, il a passé 5-10 minutes là, il a appris plein de choses. Fait qu'il, puis il n'avait pas son CV avec lui. Là. Dans le fond, ils veulent voir t'es qui. Puis après ça, ben, maintenant, c'est facile. Ils donnent on échange des courriels, ils donnent le site web, tu vas les visiter après. Tu n'as pas besoin de papier, tu n'as pas besoin de CV. Juste d'être là, de t'intéresser à ce qu'ils font, d'être de bonne humeur, puis ça va faire.
Surtout que c'est rare que ça arrive, mais là, c'est un marché d'employés plus que d'employeurs.
Ouais.
Ils veulent vous voir, ils veulent vous parler. Là. Ouais. Ils ne sont pas en train de dire j'ai juste besoin du meilleur de toute l'université au grand complet. Ils sont non, venez nous voir, parlez-nous.
Open c'est for business, comme on dit. Puis même si souvent, il y a des étudiants qui vont être approchés très tôt dans leur parcours avec un employeur qui va leur proposer un parcours avec des stages toujours au même endroit. Nous autres, on dit danger. T'es aux études, c'est le temps d'explorer. Donc, fais des stages à plusieurs endroits. Va voir des employeurs à plusieurs endroits parce que si t'en connais juste un, t'arrives sur le marché du travail puis tu commences juste là, ça se peut que tu sois déçu après. Puis là, oui, c'est sûr qu'on est dans beaucoup de moments où il y a beaucoup d'emplois. Mais on sait que la rareté de main-d'œuvre, on prévoit encore un 6-7 ans. Après, il va y avoir un après.
Oui.
On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. On va être en récession, il va y avoir des entreprises qui vont fermer. On ne le sait pas. Donc, c'est important de développer son bagage pour plus tard.
Une c'est carrière, maintenant c'est long. Qu'il faut
ça
diversifier.
Dure 30 ans, ça dure 40 ans. Donc, va te chercher des expériences, découvre des choses, essaie des types d'emplois, jase avec des employeurs. Puis là, c'est le temps ou jamais. Là, tu vas peut-être découvrir un employeur qui va te faire triper des jobs de rêve. C'est le temps de venir.
Le carrefour de l'emploi, là, aujourd'hui, bon, jusqu'à 3 heures, comme vous l'avez dit, virtuel jusqu'à vendredi.
Oui.
Mais reste que le service de développement professionnel de l'université, ça s'arrête pas à ça. Là. Vous êtes pas, vous fermez pas business pour le reste de l'année.
Qu'est-ce qu'on
peut faire pour les étudiants après ça?
D'abord, si tu n'as pas rencontré encore de conseiller en emploi, déguisine, c'est le temps. Parce qu'on a 25 conseillers conseillers en emploi qui sont là. On en a dans tous les pavillons. On a des zones de service à peu près, dans tous les grands pavillons. Puis au Desjardins, bien évidemment. Donc, c'est possible de prendre des rendez-vous en ligne, de venir nous voir. Les gens ne savent pas, mais on fait 7000 rencontres individuelles par année avec des étudiants. On dit que c'est gratuit, mais dans le fond, vous le payez avec vos frais afférents. C'est un service que tu te payes. Fait que utilise-le. On a des formations sur toutes sortes de choses. Comment utiliser les médias sociaux, comment te préparer une entrevue, comment te chercher un stage, un emploi. Puis les conseillers d'emploi, là, ils peuvent faire plein de choses pour toi. Ils peuvent t'identifier des emplois que tu connais pas. Ils peuvent t'identifier des métiers que tu connais pas. Il y a plein de nouveaux emplois qui ont été créés avec la transformation numérique au cours des dernières années qu'on ne sait même pas que ça existe. Donc, on fait découvrir ces emplois-là, on donne plein de stratégies pour... on a des outils comme le profil professionnel que tu peux compléter qui va faire que tu vas rendre ton profil accessible à des employeurs. Donc, il y a des employeurs qui vont t'appeler, qui vont t'écrire, que tu connais même pas, qui vont t'offrir des super belles opportunités. Si tu veux vivre une expérience à l'international, on a des conseillers qui sont spécialisés là-dedans. Tu cherches un stage dans ton domaine, on a des conseillers qui sont spécialisés là-dedans. Fait qu'il faut vraiment nous utiliser, puis on trouve tout le temps qu'on est sous-utilisé. Les gens, souvent, ils se limitent à notre offre, notre barrière d'offre d'emploi puis d'offre de stage. Les meilleurs emplois, là, ils n'ont même plus le temps de les afficher, les employeurs, parce qu'ils n'en ont pas de candidats. Ça fait quand tu envoies un bon ou une bonne, là, ils vont y créer une place. Fait que il y a vraiment un marché parallèle qui se développe. Puis on est là pour ça. C'est possible de nous rencontrer en présentiel, sur Teams, de nous écrire. On a un chat pendant les heures de bureau. Tu peux chatter. C'est du vrai monde qui te répond à l'autre bout. Là, c'est pas un robot. C'est vraiment quelqu'un qui va t'accompagner. Fait que c'est le temps de venir venir nous, de nous utiliser.
Bien, merci beaucoup, André Raymond. On sent votre enthousiasme. Je pense que ça vous donne une bonne idée de l'importance de prendre le temps. Si vous avez une pause entre deux cours, si vous avez un moment, ramenez-vous, Alphonse Desjardins. Il y a les employés qui sont employeurs qui sont prêts à vous rencontrer. André Raymond, directeur du service de développement professionnel de l'Université Laval, merci d'avoir pris quelques minutes avec vous.
Bien, merci à vous.
Bien, merci. On va vous laisser. Je pense que vous avez en masse de travail en haut. On vous retrouvera certainement peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, aux Affamés pour vous jaser du développement professionnel de l'université. De notre côté, on s'arrête en musique avec Jérôme 50 au Québec.
C'est l'histoire du petit Kevin Tremblay qui fait le tour du lac Saint-Jean avec sa nouvelle Civic montée puis sa blonde de 15 ans. Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frais, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, en endroit par en envers. Pour Arsoud à Jonquière. Au Québec, c'est... de Marie-Lou Thibodeau, grande adepte du compostage, qui mange local, vegan, bio, à part quand elle part en voyage. Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frais, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, en endroit par en envers. Pis c'est à votre mardi vert. C'est l'histoire de Joanie Gendron, à l'aventure d'occupation double, qui dit lors de son audition, je tenais... paquet de troubles. Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas prête, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, en endroit par en envers. Pis ça se pogne le beau frère. Took it back, sit. Took it back, sit. C'est l'histoire de gros bras grandiaux, tout droit sorti de Nicolette, qui juge à la couleur de la peau pour distribuer ses tickets. Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frais, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, en endroit par en envers. Avec les cerises sur le gros nerf. Took it back, sit. 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 Fais pas chaud, fais pas frais, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, à l'endroit par en envers. Les deux filles dans la boîte, s'en va se coter chez sa mère. Clair le jump, clair les dettes, t'envoies une autre peine de bière. Mais tu cuis sa cassette, lourde comme un revolver. Bloqué sur l'internet, jamais défriché la terre. Fait qu'à cause qu'on est fiers. Took a back seat.
Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Midi 47, vous écoutez toujours Les Affamés avec Félix-Antoine Audet, Jessica Poirier-Roy, très heureux de vous accompagner pour un dernier segment, une dernière ligne droite d'une dizaine de minutes environ. Et je vais parler plus légèrement, on va parler d'une application de rencontre, Jessica. Mais avant toute chose, juste vous dire qu'on va avoir une superbe journée à Québec. Profitez-en, mon Dieu Seigneur. Après avoir fait un tour là, au Carrefour de l'emploi, ben sortez dehors. 18 degrés qu'on pourrait atteindre aujourd'hui. C'est superbe. Gros soleil. On a présentement un 16 degrés Celsius à Québec. Et on va aussi faire un tour de l'actualité de l'information avec Jessica Poirier-Roy.
Geneviève Guilbeault a demandé à François Legault de ne plus être ministre de la Capitale-Nationale pour le deuxième mandat de la coalition Avenir Québec qui a été réélu lundi soir. Les nombreuses frictions entre l'administration municipale du maire Marchand et le gouvernement québécois causées par les dossiers du tramway et du troisième lien auraient poussé Mme Guilbeault à vouloir passer le relais. Elle a aussi demandé au premier ministre de ne plus être affecté au ministère de la Sécurité publique. Ces demandes dateraient de quelques semaines. Mardi, lors du conseil municipal de Québec, la conseillère membre de l'exécutif responsable des grands événements, Catherine Vallière-Roland, a révélé qu'en raison du chantier situé sur la place de l'Hôtel de Ville, le marché de Noël allemand ne pourra pas installer ses kiosques à cet endroit cette année. Le marché souligne d'ailleurs son 15e anniversaire. La Ville de Québec a procédé en privé à l'ouverture des propositions pour le matériel roulant du tramway ces derniers jours. Le nom des soumissionnaires resteront confidentiels jusqu'à la fin du processus d'approvisionnement. Les fabricants Siemens avaient fait part de son hésitation à soumissionner pour ce volet du grand projet de transport structurant en juin dernier. Seule la compagnie française Alstom, ayant acheté Bombardier, demeurait en lice pour le matériel roulant. Hockey Québec affirme vouloir s'éloigner de Hockey Canada. La fédération provinciale chapeautant le Québec estime avoir perdu confiance en la fédération canadienne et croit fermement que celle-ci était capable de modifier la culture de son sport avec son organigramme actuel. Ces déclarations suivent la récente présence de Hockey Canada devant le comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes. Le Canadien de Montréal a accordé un contrat de 3 ans au défenseur Logan Mailloux. Le joueur de hockey devrait toucher un salaire de 750 000 $ s'il évolue dans la Ligue nationale de hockey la saison prochaine. Des réactions négative avait été exprimée suite à la sélection de Mailloux au 31e rang de repêchage amateur en 2021 en lien avec ses ennuis extérieurs. Il a notamment été condamné en Suède pour avoir partagé des photos explicites d'une femme sans son consentement à l'automne 2020. Il a aussi été suspendu dans la Ligue junior de l'Ontario pour une partie significative de la dernière saison. L'acteur américain Alec Baldwin a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec la famille de la directrice de la photographie Alaina Hutchins, qu'il avait tuée en octobre 2021 en manipulant un revolver lors d'un accident de tournage. L'accord met fin aux poursuites judiciaires qui avaient été engagées au civil par la famille de Mme Hutchins. La production du film reprendra en janvier 2023.
Merci Jessica. On va donc aller un peu plus loin que les nouvelles. On a fait le tour, je pense, de l'actualité. On va se divertir, on va rire un peu. Parce qu'aujourd'hui, ou cette semaine, là, j'ai pas vu la date exacte, Tinder a 10 ans.
Déjà.
10 ans pour Tinder, qui a changé, disons-le, quand même réalistiquement, le monde de rencontres en ligne. C'était très stéréotypé auparavant. Maintenant, dire que tu as rencontré ton chum ou ta blonde sur Tinder, c'est assez normal, ça dérange rarement. C'est considéré un peu la base même pour beaucoup de couples.
Quasiment,
ouais. As-tu déjà été sur Tinder, Jessica?
Ben moi, j'ai une histoire quand même un petit peu intéressante sur Tinder. La réponse, c'est oui, mais...
Oui, mais, OK,
oui,
j'adore.
Mais. Donc, la seule raison pourquoi j'ai été sur Tinder, c'est qu'au cégep, moi et mon équipe, on faisait un documentaire sur Tinder et on voulait avoir le point de vue de quelqu'un qui n'avait jamais été sur Tinder et qui ne voulait pas y aller. Donc, c'était bien moi.
Oui, j'avais bien compris.
C'était bien moi qui ai dû faire l'expérience et je me suis dit, bon, la raison pourquoi je voulais pas aller sur Tinder, c'est que je me dis, le genre de gars que mes amis me disent qu'il y a sur cette application-là, ça me tente pas de leur parler. Fait que je me suis dit, je vais les attirer encore plus. Dans ma bio, j'avais juste mis comme description, en DM-moi, donc écris-moi par message, ta pire pick-up line.
Ah, ben oui, ça, c'est toujours la meilleure manière d'avoir des bonnes histoires.
C'est ça, c'est le classique Tinder des pires pick-up lines qu'on voit sur les médias sociaux qui sont partagés. Et j'ai tellement eu des affaires, là.
Ben oui, c'est sûr.
Ça m'a confirmé ce que je pensais, là. Il y a des affaires, c'était terrible, là.
Ah, moi, j'ai vécu Tinder, j'y ai été à quelques reprises. Ça fait quelques années, bien évidemment, que je n'y suis plus. Reste que... Ça, c'est quelque chose qui a marqué une génération, particulièrement la mienne, peut-être un peu moins la génération Z. Et c'est ce que je veux venir. Une chose que je trouvais intéressante, parce qu'il y a un dossier spécial là-dessus, dans le Journal de Québec, au Journal de Montréal, sur les 10 ans de Tinder. Et on parle à la fin notamment de la génération Z. Est-ce qu'on a 10 ans de plus à Tinder? Et j'ai trouvé ça très intéressant, la vision, parce que du côté de la génération Z, un peu évidemment toujours des généralisations, prenez ça avec un grain de sel. On s'éloigne de plus en plus de cette plateforme où on se sent en évaluation constante, où la pression est là. Et je dois confirmer que je peux comprendre ce sentiment-là.
Oui.
Évidemment, selon les standards de beauté qui ne sont pas toujours réalistes, il y a certains types de personnes qui apprécient beaucoup Tinder. Tu te sens bien aimé, tu te sens... Et il y a le reste.
L'inverse.
Il y a le reste où tu as l'impression que soudainement, tu es la personne la moins attirante et désirable sur la planète Terre. Ça peut causer beaucoup d'anxiété, de difficultés. Et c'est la raison notamment pourquoi Tinder, je ne le savais pas, là. Je ne suis plus sur la plateforme, surtout si tu m'écoutes, mon amour. Mais reste qu'ils ont introduit un concept de blind date.
OK.
pour essayer d'être plus authentique. Et on voit de plus en plus une prise de popularité par les applications de rencontres avec les intérêts communs. Donc, il y a des gens qui aiment lire, des gens qui aiment aller faire de l'activité extérieure. Donc, rejoindre les gens dans des points d'intérêt communs pour que ce soit plus réel comme rencontre, plus pertinent. On voit que de plus en plus, donc on s'éloigne. Est-ce que Tinder va s'adapter? On commence à le faire un peu. Je pense qu'ils le réalisent parce qu'il y a un désintérêt pour la nouvelle génération. Je pense que Tinder fonctionne généralement un petit peu plus pour les gens plus jeunes que pour les gens plus vieux. Là. Quoique c'est encore faux, j'ai vu ma mère, j'ai eu à vivre l'expérience étrange de voir ma mère se créer un compte Tinder.
Oh mon Dieu.
Oui,
pour
c'est
vrai.
Oui, c'est une drôle d'expérience. Là. Mais tu sais, ça pour rapidement le mentionner, là, ma mère est un peu jeune, elle m'a eu à 18 ans.
OK.
Le plus bel accident de sa vie, comme elle aime bien dire.
C'est ça.
Donc, j'ai une jeune mère là, qui vit ses affaires, puis c'est bien correct, mais c'est quand même spécial de voir ça comme jeune. Non, je pense que l'impact définitivement de Tinder se fait sentir dans toutes les sphères du dating de nos jours. La vitesse, le manque de compréhension et le désir de toujours devoir se mettre en valeur. Donc, s'il y a une évolution, tant mieux. Je suis content pour ceux qui sont célibataires présentement et qui doivent le vivre. Parce que même dans ceux qui ne sont pas sur Tinder, ça se sent. Là. Il y a toujours cette option. Toujours... Mais il n'y a pas juste négatif. Là.
Non,
c'est sûr que pour beaucoup de gens, ben, cette espèce de démocratisation de la rencontre en ligne, il y a des gens qui ont trouvé l'amour. Il y a des gens qui sont bien heureux de ça. J'ai vécu des belles expériences avec Tinder. Là. C'est pas... C'est pour tout le monde aussi, mais reste que je pense que s'il y a un petit changement de mentalité, ça fera pas mal.
Je pense que c'est un concept intéressant, les blind dates. Ça me fait penser à l'émission Netflix. Est-ce que tu avais vu ça? Ça s'appelle Sexy Beast.
Oui, oui, ben là, OK. Mais là, papillon, tu veux me partir là-dessus?
Ça me fait
là.
Penser un peu à ça.
Pour les non-initiés, je recommande de rester non-initié. Sexy Beast, c'est une émission de rencontre où tout le monde dans l'émission a un maquillage extravagant.
Déguisé en animal.
T'as aucune idée à quoi il ressemble. Ouais. Sauf que ce qui défie un peu le principe même de l'émission, c'est qu'ils prennent à la base toujours des personnes qui respectent très fortement nos stéréotypes de beauté.
Oui,
là.
C'est sûr.
Que c'est bien
sûr.
Beau de pas voir la personne puis de devoir te fier à la personnalité, mais quand tu sais que c'est pas mal tout le temps une belle personne, peu importe,
ouais, c'est ça que tu
c'est
dis.
Un peu plus facile de prendre des décisions.
Au final, c'est l'émission.
De se ficher de la personnalité. Là, fait que ça me fait un peu rire comme concept. Mais je comprends ce que tu veux dire. On en voit de plus en plus. Je pense qu'il y a un appétit pour... On est allé dans l'extrême avec Tinder. Ça a été plaisant, mais là, il y a eu l'extrême de là, OK, bon, faut absolument que...
Faudrait que ça change.
Soit une belle grande blonde aux yeux bleus ou un beau gros gars avec bien équipé, là, musculairement parlant. Dans les stéréotypes de beauté, toujours, c'est plus facile. Je pense que d'avoir cet équilibre, de revenir un peu vers une base, de trouver le compromis entre la vie de dating régulière et la vie Internet qu'on utilise de plus en plus, si vous comprenez ce que je veux dire. Évidemment, on parle pas en connaissance de cause, on est les deux en couple depuis, depuis longtemps, séparément, précisons-le.
Ouais,
mais je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant, évidemment, surtout pour des étudiants universitaires qui arrivent généralement dans une nouvelle ville, célibataires.
Oui,
Tinder est un bon ami, j'ai l'impression pour plusieurs.
Quand même, oui.
En plus, il y a tellement d'offres, c'est ridicule.
Ben oui.
Il y a Bumble, où la fille doit parler en premier.
Oui, exactement.
Il y a
Fruits.
Fruits.
Où tu choisis quelle sorte de relation tu veux.
Oui, ben ça, c'est pratique. En même temps, là,
t'évites
l'espèce de danse, de faire semblant que tu veux autre chose que ce que tu...
En c'est ça,
oui. Bien, bien, bien agréable. Hey, ça a été un plaisir de vous accompagner dans cette édition fruitée. Les affamés. Ah, je me déteste.
Cette émission est commanditée par Fruits.
Ce serait particulier. Non, donc très heureux de vous avoir en compagnie. On va se retrouver de mon côté demain pour Les Affamés, l'édition du jeudi. Émeric Boyer qui est avec nous, ainsi que William Amiotte, une nouvelle recrue dans l'équipe des Affamés. La première édition des Affamés cette saison à 3 personnes. Ça risque d'être rock'n'roll. Manquez pas ça demain. Même heure, même poste sur les ondes de Chiz 94.3. Jessica Poirier-Roy, toujours un plaisir d'animer avec toi, malgré le fait que ta face ne me revient pas encore.
Là, tu me tapes ses nerfs.
À la prochaine, les amis!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. C'est dimanche soir, vous vous sentez un peu maussade, vous auriez besoin d'un divertissement, un petit retour dans le passé, d'être témoin d'une complicité magique entre deux animatrices qui rendraient votre soirée plus lumineuse, bien sachez que l'émission 10 entre nous est de retour cet automne et que la nostalgie coule à flot.
On vous amène dans notre enfance, dans nos premiers parties. On vous fait découvrir notre lieu natal, nos projets personnels et plus encore. À travers la musique, le cinéma, la littérature, les jeux vidéo, ces passions qui nous reflètent mieux que la vie en elle-même. Ne manquez pas 10 entre nous, un dimanche sur deux à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.
C'est dimanche soir, vous vous sentez un peu maussade, vous auriez besoin d'un divertissement, un petit retour dans le passé, d'être témoin d'une complicité magique entre deux animatrices qui rendraient votre soirée plus lumineuse, bien sachez que l'émission 10 entre nous est de retour cet automne et que la nostalgie coule à flot.
On vous amène dans notre enfance, dans nos premiers parties. On vous fait découvrir notre lieu natal, nos projets personnels et plus encore. À travers la musique, le cinéma, la littérature, les jeux vidéo, ces passions qui nous reflètent mieux que la vie en elle-même. Ne manquez pas 10 entre nous, un dimanche sur deux à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
En passant par des films marquants de films aux paroles de chansons remplies de meaning, Pop Analyse, on est une émission où on décortique des œuvres créatives et les nouvelles du monde de la pop.
On est là pour discuter et donner nos impressions sur de multiples sujets, mais surtout pour t'apprendre des fun facts sur le monde créatif qui t'entoure et que tu te couches moins niaiseux.